De la politique nationale, territoriale et communale au programme de ce journal, sur des thèmes comme le nucléaire, le budget et la pêche, et puis des événements en fin d'édition, aussi bien musicaux que sportifs. Le journal de la mi-journée de Radio 1 et Thierry FM, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On commence ce journal à Paris avec cette victoire pour Meriana Redarbelot.
Oui, la députée Tavigny a eu confirmation hier que sa commission d'enquête sur la politique française d'expérimentation nucléaire allait être reconduite à l'Assemblée nationale. Alors ça n'était pas gagné, hein, puisque les travaux de cette commission qui avait commencé fin avril avaient été avortés par la dissolution du mois de juin. C'était aussi le cas de 6 autres commissions d'enquête. Et après les législatives anticipées et la longue pause dans le travail parlementaire, la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, avait choisi de n'en réactiver que 2 et pas celle sur le nucléaire. Meriana Redarbelot a donc dû convaincre son groupe GDR d'utiliser à nouveau son droit de tirage pour relancer ses travaux, ce que les élus communistes et ultramarins ont finalement accepté de faire. La commission va être relancée donc, mais avec quelques nouvelles têtes, puisque certains membres n'ont pas été réélus en juillet.
Ça va forcément changer le visage de la commission. Je n'ai pas encore tous les détails par rapport aux travaux qui avaient été commencés, en tout cas les auditions qui avaient été menées déjà. Donc je pense que ce sera un accord de la nouvelle commission de savoir si les députés sont d'accord qu'on reprenne les auditions déjà exécutées ou les refaire à nouveau, on verra.
Et que la commission reparte d'une page blanche ou pas, elle ne devra pas traîner pour mener ses travaux qui portent sur les conséquences socio-économiques du CEP, mais aussi sur celles des essais en Algérie et bien sûr la prise en charge des victimes de ces essais d'un côté comme de l'autre. La députée Tavigny s'est déjà fixé un calendrier, écoutez.
L'idéal, ce serait d'avoir un rapport terminé avant juillet, puisque c'est la date couperet d'une possible dissolution qu'on espère pas forcément, évidemment, mais il faudrait pas encore que cette commission d'enquête soit interrompue à nouveau par un événement inattendu, quoi. On va la commencer soit en décembre, maximum au mois de janvier pour qu'elle puisse être... Parce qu'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale ne dure que 6 mois.
Meriana Redarbelot, qui travaille aussi ces temps-ci sur la prolongation des délais pour l'indemnisation des ayants droit des victimes des essais nucléaires. Certaines demandes ne sont plus possibles après le 31 décembre de cette année, une date que les députés et sénateurs politiques veulent reporter à 2027, voire 2028.
On continue de décortiquer ensemble le budget du pays avec des réformes qui ne vont peut-être pas combler les élus de Tarahoy.
Oui, et notamment la majorité Tavigny qui s'était déjà montrée critique en fin d'année dernière sur le pacte fiscal proposé par le gouvernement. Certaines mesures avaient été retoquées, mais surtout les élus bleu-ciel avaient rappelé que les engagements pris pendant la campagne territoriale qui doivent être tenus, on se souvient des tracts du Tavigny avec la lutte contre la vie chère ou le rééquilibrage de la fiscalité. On parlait de baisse des taxes sur la consommation et de ponctions plus importantes sur les grosses fortunes ou sur les capitaux. L'exécutif et son ministre des Finances de l'époque, Tevaiti Pomare, avaient promis des réformes d'ampleur pour l'année suivante, c'est-à-dire maintenant. Mais le projet de budget primitif 2025, désormais à l'étude à Tarahoy, ne répond pas tout à fait à ses engagements, Charlie René.
Non, et pourtant on ne peut pas dire que le gouvernement est resté immobile sur la question fiscale. Warren Dexter, qui a remplacé Tevaiti Pomare, avait annoncé dès septembre sur notre plateau des changements importants qui se retrouvent bien dans ce BP 2025. On parle de la hausse de TVA sur les produits sucrés qui va rapporter tout de même 2,4 milliards de francs au pays. On parle aussi des baisses de taxes sur les achats immobiliers ou sur les importations océaniennes ou bien ce tour de passe-passe à 1,6 milliard sur la fiscalité des hydrocarbures qui n'aura pas d'impact à la pompe. Mais les réformes sur la vie chère, qu'elles concernent les PPN ou l'encadrement des prix, sont-elles remises à plus tard? Comme d'ailleurs la refonte des taxes hôtelières, la réforme de la TDL très débattue, celle de l'IRCM ou le projet d'impôt sur les transactions. Bref, pas grand-chose de nouveau à se mettre sous la dent pour les élus Tavigny. Le grand soir fiscal, ce ne sera pas avant l'année prochaine.
Pas de nouvelles non plus des taxes sur les investissements spéculatifs et les fuites de capitaux. Le Tavigny s'était pourtant engagé dessus pendant la campagne territoriale. Quant à la taxation du patrimoine retirée du pacte fiscal l'année dernière pour être retravaillée, aucune mention dans ce projet de budget. Mais il ne serait pas abandonné. Sur notre plateau fin décembre, le ministre des Finances expliquait même que cette mesure était au centre de la réflexion sur le rééquilibrage de la fiscalité et le financement des comptes sociaux. Il précisait aussi qu'il faudrait du temps pour aboutir à un texte consensuel. On l'écoute. suite.
Oui, c'est difficile parce qu'on est encore en discussion, y compris au sein de la majorité, parce qu'il y a vraiment le souhait de ne pas faire en sorte que ça permette à l'administration d'être plus intrusive dans la vie privée. Donc il faut choisir le juste créneau et ce n'est pas un sujet facile. Quoi. C'est-à-dire qu'il faut, tout le monde est conscient qu'il faut développer la fiscalité du patrimoine, notamment sur les hauts patrimoines, Dieu sait qu'il y en a dans ce pays. Après, il faut faire en sorte qu'on n'aboutisse pas à des usines à gaz qui permettent à l'administration d'aller farfouiller chez vous. Quoi.
Voilà. Et c'était fin septembre sur nos antennes et cette taxe sur le patrimoine n'est pas abandonnée, mais elle n'est pas au budget 2025. Il y a d'autres projets fiscaux dont on devrait reparler dans les prochains mois, notamment celle-ci, la fameuse taxe sur les voyageurs internationaux qui doit s'appliquer aux touristes comme aux résidents dans le courant de l'année. Là encore, le texte n'est pas encore prêt.
La politique locale maintenant à Arroué, l'opposition dénonce l'emprise de Jacky Briand sur le conseil municipal.
Oui, suite à notre article sur le projet de l'État et du pays de restaurer la Saint-Onge, le bâtiment de la mairie fermé depuis 4 ans et promis à la démolition par le conseil municipal depuis 2 ans, 3 des 4 membres de l'opposition, Léo Marais, Atonia Maïtia et Poussi Timo, tenaient ce matin une conférence de presse pour se féliciter de la préservation de ce bâtiment de la mairie, mais surtout pour dénoncer, disent-ils, le poids écrasant de Jacky Briand, 3e adjoint sur ce conseil municipal. On écoute Léo Marais au micro de Caroline Perdry.
On ne comprend pas l'obstination. Je pense qu'il y a un véritable blocage aujourd'hui entre Jacky Briand et ses idées arc-boutées, très arrêtées sur le sujet. Maison coloniale qui peste contre l'État et le pays qui ont décidé d'être partenaires de ce projet. Donc on a énormément de mal aujourd'hui à comprendre ce type de réaction et j'ai senti que Tavana Teura Iriti était elle-même très embarrassée, très gênée de cette situation.
Voilà, rappelons que Teura Iriti avait été élu sur une liste d'union avec le Tavigny et ses alliés. Et selon Léo Marais, Jacky Briand est à présent plus encombrant qu'utile pour la maire d'Arroué. Il regrette que le sujet soit politisé alors que la préservation historique est aussi l'occasion de former les jeunes.
Ce n'est pas un sujet qui devrait nous diviser. C'est véritablement un sujet qui devrait nous rassembler. Et au-delà de la population d'Arroué, la Polynésie, puisque une vieille bâtisse comme ça, il n'en existe quasiment plus. Et je ne vois pas aujourd'hui tous les pays qui ont des bâtiments de ce type les détruire. Au contraire, si c'est politique, ça n'a pas lieu d'être. Ce projet de réhabilitation, de rénovation de la Saint-Onge pouvait permettre aussi de faire de l'économique, puisque rénover cette vieille dame, qui, je le rappelle, a plus de 132 ans, c'est aussi l'occasion de former des jeunes au métier de la menuiserie, de la charpente.
Il y a un véritable manque de respect sur ce projet. Voilà ce que conclut Léo Marais qui affirme que pour l'instant, les élus ne disposent pas de réelles données chiffrées, que ce soit sur la démolition ou là sur la rénovation. Une nouvelle étude doit être entreprise dans l'optique du financement État-Pays.
Et puis au CESEC, on salue la réforme du statut des marins-pêcheurs.
Et oui, il donne même un avis favorable à l'unanimité. C'est assez rare pour être noté. Alors il faut dire que cette réforme était en discussion depuis 2 ans qu'elle a récemment créé des remous sur le port avec, rappelez-vous, une manifestation nautique des pêcheurs dans la passe de Papeete. Un accord avait finalement été trouvé à la toute fin du mois d'octobre entre le gouvernement, les syndicats de salariés et les armateurs, chacun y mettant un peu du sien pour trouver un statut qui soit plus protecteur des pêcheurs, soutenable pour la filière et pas trop coûteux pour les comptes publics. Difficile donc pour le Conseil économique et social de remettre en cause ce compromis inespéré, mais l'institution a tout de même fait des recommandations sur l'organisation de la filière, notamment celle de recréer une criée sur le port de pêche qui permet aux pêcheurs de proposer publiquement à la vente certains poissons avec des formes d'enchères entre les différents mareyeurs qui souhaitent l'acheter. Il n'y en a plus depuis des années, tous les poissons se vendent de gré à gré. Et pour certains armateurs, il est temps de relancer ce système qui permet de mieux valoriser le poisson et d'être plus exigeant sur la qualité. On écoute Moana Mahama Tuaya Hutapu, gérant de plusieurs thoniers et représentant du secteur au CESEC.
C'est la demande des armateurs. Pourquoi ? Pour une meilleure transparence des prix. Et aussi, en ouvrant la criée, ça ouvre la porte à des petits des potentiels marieurs, futurs marieurs, d'accéder aux produits.
Voilà, le rétablissement d'une criée sur le port de pêche demandé donc par certains armateurs, surtout pour le thon rouge et les poissons d'hiver, le thon blanc lui étant généralement déjà réservé à son arrivée à quai. Ce projet pourtant ne convainc pas tout le monde, et notamment Patrick Galnon de la CSTPFO.
La criée, ça pourrait être nécessaire lorsque vous voyez en France comment ça marche, au Japon ou aux États-Unis. Mais ce sont des professionnels qui font le grading, hein, c'est-à-dire à la qualité du poisson. Et les installations doivent être aux normes. Aujourd'hui, nos installations ne sont plus aux normes. Donc il faudrait investir plusieurs dizaines de millions pour mettre les installations aux normes. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut des professionnels, des gens qui connaissent. Malheureusement, depuis quelques années, depuis toutes ces années, ça s'est dégradé de plus en plus, non seulement en matière de structure, mais en matière de fonctionnement.
Voilà, Patrick Galland qui estime donc que le rétablissement de la criée, aussi louable soit-il, coûterait trop cher pour son intérêt. Le débat devrait se poursuivre du côté de l'Assemblée, mais aussi de la S3P, société qui gère le port de pêche de Papeete.
On vous parle environnement avec ses bons résultats pour la société d'ornithologie Manou, aux Marquises.
Oui, voilà 9 mois qu'elle déploie son ambitieux programme Kiwa Inspire à Fatou Hiva. Toute la population est engagée dans un effort de lutte contre les espèces envahissantes. Résultat, plus de 700 rats capturés dans le village de Homoa, 7000 plants de Myconia détruits et 2000 pieds de falcata coupés. Tout ça pour préserver l'habitat du monarque de Fatou Hiva, cet oiseau endémique en danger critique d'extinction. Des résultats qui ont été présentés aussi à Kaiki des Marquises. L'objectif est d'inspirer d'autres programmes de conservation.
Il y aura 2 jours de concert pour le Tiki Fest l'année prochaine.
Studio 87 a dévoilé le line-up de cette 4e édition avec le rappeur français SCH, mais aussi Slimane, les DJ Bon Entendeur ou la chanteuse Emma Peters, un autre DJ Feder et de nombreux artistes locaux dont Pepena et No Oreille. Et enfin, un DJ Mystère dont le nom sera dévoilé prochainement. 12 000 spectateurs sont attendus, dont 400 sur un village camping. Ce sera les 11 et 12 avril 2025 au Parc Veilleray.
Un autre événement sportif cette fois avec les trophées du sport qui repartent pour une 11e édition.
Oui, ce sera le 21 janvier au Grand Théâtre. La conférence de presse de présentation a eu lieu ce matin. Cette année, 16 trophées sont mis en jeu pour récompenser les meilleurs athlètes du Fénois. Et parmi eux, 3 font figure de catégorie reine, l'athlète femme, l'athlète homme et le prix du public. Les 6 nommés sont connus. 3 hommes donc, le lanceur de javelot Théora Tupaya, le surfeur Kaolivast et le pratiquant de Jiu-Jitsu Loïc Tatoutou. Chez les femmes, on retrouve aussi une surfeuse. Il s'agit bien sûr de Vaine Fierro. Il y a également une rameuse, la jeune Nathalie Sommer, et une crossfiteuse Inatea Montebello. Pour l'organisateur Simone Forge d'Avanzati, il s'agit de sportifs inspirants que les trophées du sport ont pour objectif de mettre en valeur.
On sent que le concours sert à quelque chose, c'est de mettre en contact justement des partenaires avec les sportifs. Et parce que malgré l'année olympique, c'est toujours compliqué en fait pour les sportifs de vivre de leur passion. Donc quelque part, le concours est là pour les mettre en lumière et faire la promotion des sportifs, mais aussi toutes les valeurs avec les questions liées à la santé, à la prévention.
Et les portraits des candidats seront diffusés sur la page Facebook des Trophées du Sport. Toutes les infos pour les différents jeux et le processus de vote aussi. La soirée, on le rappelle, c'est le 21 janvier 2025 au Grand Théâtre.
Et au cinéma, Val-de-Marne, la sortie de Vaiana 2 est très attendue.
Et oui, depuis l'annonce du nouvel opus en février dernier, les demandes et sollicitations autour de ce nouveau Disney n'ont cessé d'augmenter, selon les professionnels du secteur.